Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Bonjour, il est l'heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le Carnet de région. Carnet de région est une émission produite et réalisée par des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Au sommaire de cette édition, il sera beaucoup question d'environnement et de cadre de vie avec successivement les préparatifs de la manifestation anti-gaz de schiste qui se tiendra ce dimanche 28 février dans le Gard. Le Gard encore où les habitants de 5 communes où étaient exploités d'anciens sites miniers ont été invités par l'Agence régionale de santé à un dépistage toxicologique dont les premiers résultats viennent d'être rendus publics. À Montpellier, un collectif d'habitants, soucieux de la qualité de leur cadre de vie, s'oppose à la construction de logements sociaux. Montpellier encore, avec la nomination surprise de l'ancienne ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, en tant que présidente du conseil d'administration de Cinémed, le festival cinéma de Montpellier.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Ce dimanche, la commune de Barjac, dans le Gard, voisine de l'Ardèche, accueille une grande manifestation contre le gaz de schiste et autres recherches et exploitations d'hydrocarbures non conventionnels. Cet appel fait suite à une décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, rendant à nouveau possible ce type de prospection dans le sous-sol au bénéfice de la société Total, titulaire du permis de Montélimar. Ce dernier comprend une vaste zone courant sur les départements de l'Ardèche, du Vaucluse, du Gard et de l'Hérault. Le permis a été rendu caduc en 2011 suite à la forte mobilisation qui avait abouti à la loi Jacob interdisant la technique de fracturation hydraulique. Or, Total affirme qu'une autre méthode pourrait être employée, mais ceci sans donner de précision. C'est sur ce flou que se base la décision de justice. De leur côté, les opposants affirment qu'il n'en existe pour l'heure aucune autre. Sébastien Espagne, du collectif Bastagaz Alès, nous explique comment s'est construite la manifestation de Barjac.
Le rapporteur du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné son avis en disant « je vais demander l'annulation de l'abrogation du permis de Montélimar ». On s'est retrouvé à Saint-Mantan, dans le sud Ardèche. On a appelé tous les collectifs. On s'est retrouvé étonnamment nombreux, près d'une centaine. Donc très étonné d'avoir autant de gens après... disons trois années assez calmes, deux, trois ans assez calmes. Et donc on a décidé de pas en rester là, de remobiliser les gens, de dire « vous voyez, c'est toujours pas fini ». Et il faut réaffirmer, il faut que les politiques réentendent aussi la voix du peuple qui a été, je pense, assez bien perçue en 2011 hein, par le mouvement citoyen qui s'est levé très spontanément dans tous les villages de notre région notamment. Et donc voilà, c'est dans cette continuité, on sait qu'on est là pour plusieurs années de combat. Effectivement, pour l'instant, le prix du pétrole nous laisse un petit peu de répit, mais il gagne du temps hein, avec ses procédures juridiques. Là, le ministère a fait appel, on en a encore pour 18 mois de procédures juridiques. Ça nous projette après l'élection présidentielle, donc on est vraiment dans des sociétés qui gagnent du temps. Et puis on a des partis politiques qui se sont clairement affichés dernièrement favorables au gaz de schiste. Donc voilà, ils attendent aussi cette alternance. Et donc nous, on ne veut pas attendre, c'est-à-dire qu'on veut que le gouvernement en place prenne des décisions et fasse voter des lois qui nous protègent plus que cette loi Jacob, hein, qui nous protège d'une technique, mais en jouant sur les mots, en jouant sur les cibles géologiques. On voit que les pétroliers peuvent gagner du temps. On a en plus 39 permis qui sont arrivés à expiration et dont le ministère n'a toujours rien fait, ne s'est pas prononcé, ne les a pas rejetés explicitement. Donc ça permet aux sociétés de faire des poursuites au tribunal administratif. Généralement, ils ont gain de cause. Il y a des jurisprudences dans cette matière. Il faut réellement que la ministre prenne un peu l'ampleur de nos demandes. On est effectivement après la COP, il y a une cohérence à avoir dans les choix qu'on fait. Et effectivement, il faut qu'on laisse ces ressources au fond des puits, quoi, et qu'on n'y touche pas, et qu'on aille sur un nouveau logiciel, un nouveau paradigme.
Alors peut-être qu'on pourrait donner des informations concernant la manifestation de Barjac, des informations factuelles, précises, qui intéresseraient nos auditeurs qui ont envie de s'y rendre. Alors qu'est-ce qui va se dérouler à Barjac ce dimanche 28 février ?
Alors, c'est à partir de 11h, On peut venir à partir de 11h, il y aura plein d'animations, il y aura les prises de parole à partir de 13h, hein, politiques, qui nous soutiennent. Puis on a essayé d'avoir des représentants de toutes les échelles de notre territoire, de la représentativité politique. Je crois que ce qui fait un peu l'identité de notre mouvement, c'est cette adéquation entre les élus et les citoyens. Quand les élus ont été attaqués, ils ont été convoqués à la préfecture, on a toujours été derrière. Quand on a eu besoin d'eux dans les manifestations, ils ont toujours été derrière nous. Donc voilà, il y aura cette prise de parole, des collectifs aussi, de français, mais aussi des collectifs qui nous soutiennent dans le monde entier. Voilà, il y aura, et des associations, notamment ATTAC. Et puis après, derrière, il y aura une grande manifestation, hein, à partir de 14h, 14h30, grande manifestation autour du site de Barjac. Et puis, vers 16h, 17h, l'écart qui amène les gens repartent vers 17h. Donc, vers 16h, la mobilisation, ça sera de... À mon avis, la fin, entre 16 et 17 heures, il y aura de quoi finir la journée calmement, en musique, sur la grande place de Barjac.
Et pourquoi vous avez choisi Barjac, précisément ?
Alors, pourquoi on a choisi Barjac ? Parce qu'il nous fallait une commune qui nous appuie, et que voilà, il y en a pas non plus énormément, qui soit en capacité de nous proposer de donner toutes les services techniques de la ville pour pouvoir organiser ça. Et ça, Édouard Chollet nous facilite la vie quand même dans cette affaire. Et puis, c'est une commune qui a la frontière ardéchoise, gardoise, c'est le Gardéchois. Le permis de Montagnimard englobe Barjac, l'entoure avec au sud... le Gard, et puis même Vallon-Pont-d'Arc est sur le permis de Montélimar. Il faut imaginer que le site de la grotte Chauvet, de Vallon-Pont-d'Arc, des Gorges de l'Ardèche, sont sur le permis de Montélimar. Donc c'était un lieu central par rapport aux populations. Et symbolique, parce qu'on a déjà fait des manifs. Hein, ouais. Voilà, c'est aussi quelque chose, c'est un marqueur, hein, c'est que c'est une commune qui est engagée sur plein de combats, dans le changement effectivement de façon de vivre, je crois que ça a du sens.
L'opposition ne s'affirme pas uniquement chez les collectifs Stop Gaz de Schiste et autres associations écologistes. De nombreux élus, comme les eurodéputés verts Michel Rivasi et José Beauvais, ou encore des élus locaux à l'instar de la majorité de gauche du conseil départemental du Gard. De même, la présidente de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Carole Delga, a pris position cette semaine dans un communiqué affirmant que ce projet est en contradiction totale avec l'ambition et les objectifs environnementaux exprimés lors de la dernière conférence sur le climat de Paris, la COP21. C'était un reportage de Pierre Isnard-Dupuis pour Radio Escapade.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
L'Agence régionale de santé Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a mis en place fin 2015 un dispositif de surveillance sanitaire auprès des habitants de 5 villages concernés par d'anciennes activités minières qui continuent à polluer les territoires de ces communes. À savoir Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, Générargues, Saint-Félix-de-Palière, Toiras et Tornac, soit une population de 2849 personnes. Sur la base du volontariat, 675 personnes ont bénéficié d'une analyse biologique des principaux métaux retrouvés dans les sols et rempli un questionnaire sur leurs habitudes de vie et de consommation alimentaire. Nous avons demandé à François Simon, médecin homéopathe à la retraite, habitant sur la commune de Saint-Félix-de-Palière, son sentiment sur les premiers résultats de ce dépistage demandé de longue date par l'Association pour la dépollution des anciennes mines dites de la vieille montagne et dont il est le vice-président.
En tant qu'habitant de Saint-Félix, bien sûr, j'étais tout à fait concerné. Ça fait quand même plus de 30 ans que j'habite le village. Donc nous avons été environ 40%, je crois, sur la commune elle-même de Saint-Félix à nous présenter pour le dépistage. Bah, écoutez, c'est pas tout à fait une surprise. Nous avions fait une certaine pression, disons, sur les autorités depuis maintenant 4 ans pour qu'un dépistage soit organisé. Il a effectivement été programmé, réalisé. Il va d'ailleurs être poursuivi, puisque l'ARS, effectivement, devant les résultats, a proposé, et c'est déjà en route depuis le début de semaine, la poursuite d'un dépistage sur Générargues pour les gens qui n'aurait pas eu l'occasion de le réaliser. Donc ça va être fait, je pense, pour peut-être 2 mois. En tout cas, oui, les résultats, bien, ils ne sont pas si surprenants que cela.
Sont-ils inquiétants ?
C'est difficile de se prononcer dans la mesure où, d'une part, il y a une confidentialité qui est respectée à raison puisque de toute façon les résultats ont été transmis individuellement à toutes les personnes qui ont réalisé le dépistage. Ce qu'on sait précisément, c'est que 46 personnes ont été contactées individuellement par l'ARS pour des résultats qui étaient anormalement élevés, disons. Ça concerne soit des personnes qui avaient des taux un peu élevés, soit des enfants. Et effectivement, ça concerne surtout d'ailleurs une imprégnation, disons, surtout au cadmium et à l'arsenic, parce que les plombémies ne sont pas si élevées que ça, semble-t-il. Cela dit, sur les 675 personnes auxquelles vous faisiez allusion, il y a quand même un certain nombre de gens qui dépassent les normes, mais sans avoir de caractère inquiétant.
D'accord.
Par contre, il y a effectivement des gens qui présentent des taux problématiques qui donc nécessitent un suivi médical.
Parmi ces 46 personnes au taux particulièrement élevé de métaux lourds dont parlait François Simon et lesquelles demandent un suivi médical, nous avons recueilli le témoignage de Marianne Plus, une habitante d'Anduze qui comprend mal ce qui lui arrive, d'autant qu'elle est domiciliée hors de la zone impactée par les anciennes mines.
Pour l'instant, l'ARS dans le courrier me proposait un suivi médical, un suivi même des analyses plus approfondies sur les reins, les poumons, des choses comme ça. Maintenant, je me suis pas occupée de ça. Moi, j'ai voulu le faire savoir, donc j'ai envoyé les mails à la presse que j'ai et aux gens d'Anduze que j'ai autour. Voilà, dans mes listings. Puisque je travaille pour une association qui s'appelle La Belle Cause et qui s'occupe d'environnement. Donc ça me paraissait intéressant qu'on soit le plus possible et qu'on le sache de façon à ce qu'on fasse quelque chose et qu'on regarde les choses en face. Maintenant, je ne me suis pas occupée de ma santé, donc je vais le faire bientôt.
Quelles conséquences pour votre santé que ces taux de métaux lourds élevés ?
Alors, je ne voudrais pas faire pleurer dans les chaumières, mais j'ai fait en regardant autour de moi, il me semble qu'il y a des taux très élevés de cancer, des dents qui tombent. Et des choses comme ça, des choses embêtantes, j'ai mal au rein. Bon voilà, tout d'un coup, tout s'éclaire, quoi, un peu. C'est tout, encore tout neuf pour moi. J'aimerais qu'on fasse les comparaisons avec tout le monde et en toute honnêteté.
L'Agence régionale de santé souhaite ouvrir ce dispositif de dépistage local aux personnes n'ayant pas participé à cette première phase d'analyse et qui souhaiteraient en bénéficier lors des prochaines semaines. Pour prendre rendez-vous et pour toute information complémentaire, une permanence téléphonique est assurée par l'ARS au 04 67 07 21 75. 04 67 07 21 75. C'était un sujet de RGO.
Carnet de région. L'actualité en langue croussillon.
Vers encore plus de logements sociaux dans le quartier de Las Rebès à Montpellier. Un projet de construction vient d'être lancé par l'Office public de l'Habitat. Il prévoit d'installer 60 nouveaux logements à la place d'un espace vert. Une situation qui exaspère les habitants du quartier, déjà majoritairement constitué d'habitations à loyer modéré. Un groupe de voisins s'est créé pour faire barrage aux nouveaux immeubles. Pour le collectif Poumon Vert, ce projet représente une menace pour la mixité sociale.
Habitant de Las Rebès depuis plus de 10 ans, Jean-Michel Vidal foule le sol du seul espace vert du quartier. Pour ce fondateur du collectif Poumon Vert, construire des logements sociaux en plus, impensable.
En tout, il y a 800 logements et il y a 560 logements sociaux actuellement gérés par la CM. Non seulement nous ne voulons pas rajouter des logements sociaux parce qu'on est déjà à 80% de l'existant, mais en plus, nous voulons garder le seul espace vert de tout le quartier.
Un espace vert nécessaire au quartier car il est le seul espace commun à tous les habitants. Pour Francis Delbé, ce coin de verdure pourrait être mieux exploité.
C'est l'intérêt général d'un espace vert dans lequel on peut y mettre des bancs, on a des projets de faire des parcours sportifs, des terrains de boules, qui créent du lien social entre les gens. C'est ce qu'il faut. Nous, on a une vision à long terme, faire en sorte que les gens puissent se sentir bien là où ils sont.
Pour autant, Nadia Beignel tient à préciser que le collectif n'est pas opposé aux logements sociaux, c'est plutôt leur concentration qui pose problème, une situation qu'elle connaît bien.
Justement, on en occupe, on est au contraire pour les logements sociaux, mais pour les logements sociaux raisonnés, c'est-à-dire sans les concentrer, sans mettre justement toutes les personnes à faible revenu ensemble. On arrive à une société où tout est cloisonné, où les gens ne se rencontrent plus.
Faire du parc Las Rebès un lieu où tout le monde pourrait se rencontrer et partager, un rêve qui n'a jusqu'ici pas eu raison de ce projet de construction.
Et cette semaine, 12 membres du collectif Poumon Vert sont assignés en référé devant le TGI de Montpellier pour avoir empêché le début des travaux. C'était un reportage de Thomas Loret de RCF Hérault.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Aurélie Filippetti, présidente du 38e Cinémed. L'ancienne ministre de la Culture sera en effet à la tête du conseil d'administration du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier et Christophe Leparc devient directeur de cette même manifestation. Philippe Sorel, maire de Montpellier et président de la métropole, a annoncé vendredi dernier cette nouvelle gouvernance dont l'objectif est d'apporter un nouveau souffle à cet événement culturel.
J'entends donner au Festival méditerranéen du cinéma une portée plus large, une puissance plus importante. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de désigner Christophe Leparc comme directeur et de proposer à Aurélie Filippetti, ancienne ministre de la Culture, d'en assurer la nouvelle présidence. Je crois que c'est la volonté de mettre en exergue le cinéma à Montpellier, un cinéma très différent, celui de la Méditerranée. Et c'est l'occasion pour nous de nous implanter dans cette image de métropole méditerranéenne dont Montpellier a besoin.
Christophe Leparc connaît bien la maison Cinémed. Après avoir encadré la sélection long métrage pendant de nombreuses années, il prenait en 2014 la délégation artistique du festival. Quant à l'arrivée d'Aurélie Filippetti, c'est une véritable surprise pour l'intéressée, ce qu'elle exprime au micro d'Élodie Chazet.
J'ai été agréablement surprise. Ça m'a fait très plaisir parce que d'abord j'aime beaucoup Montpellier qui est une grande ville de culture. Ensuite j'ai déjà présidé par le passé un festival de cinéma documentaire à Marseille et donc je reprends du service avec beaucoup de bonheur. J'ai des racines italiennes avec notamment à Villerue un festival de cinéma italien qui est partenaire de Cinémed depuis très longtemps et qui m'a forgé et qui a fait mon éducation cinématographique. Donc je suis très liée au festival de cinéma en général, parce que je trouve que c'est un moyen de transmettre aux jeunes générations qui est formidable, et puis à la Méditerranée, bien sûr, par mes origines familiales en Italie.
La 38e édition du Cinémed se déroulera du 21 au 29 octobre prochain, une édition qui devrait surprendre.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Ce carnet de région se referme. Carnet de région est, je vous le rappelle, une émission produite et réalisée par des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon. En l'occurrence, c'était Radio Grille Ouverte à Alès qui a réalisé aujourd'hui la mise en onde de ce carnet de région avec Cathy Rouvérol à la technique et Yves Defago au micro. Bonne semaine à tous.
Carnet de région.
Hérault.
Gare,
Hérault, Pyrénées-Orientales,
Pyrénées-Orientales, Gare,
Lozère,
Lozère,
Aude.
L'actualité en langue de Croussillon.